En fait, ce que je voudrais faire, bon, je me suis engagé à vous parler de gêne, pouvoir et profit, c'est en fait, je vous ai parlé ce matin dans une intervention de la schizophrénie des chercheurs, ben, je vais essayer de faire une réconciliation de moi-même avec moi-même quelque part, c'est-à-dire qu'au lieu de vous faire un exposé général sur gêne, pouvoir, profit, ben, je vais vous parler moi de mon expérience en tant que chercheur. Et la façon dont ce problème de gêne, pouvoir et profit bah, s'est posé au cours de ma carrière de chercheur scientifique. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de moi, comme ça, hein, j'aime pas ça, mais bon, grosso modo, moi je suis un produit de plusieurs choses. Je suis un produit de la méthode Ogino en 1948, je suis un produit du baby-boom d'après-guerre, je suis un produit des Trente Glorieuses. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais un produit du choc pétrolier et de la crise économique, et toute ma carrière universitaire s'est faite avec les politiques d'austérité, les unes après les autres. Bon, ça pour vous dire que on ne peut pas, à mon avis, discuter de recherche, de chercheurs, de responsabilité de chercheurs dans l'abstrait ou dans l'absolu. Ça ne peut se faire, à mon avis, que dans la façon dont les choses ont évolué, dans les rapports sociaux qui se sont instaurés au cours de l'évolution. Et là, je voudrais repartir de ce qu'a dit Rémi, où il est là, sur eh ben, les périodes qui se sont déroulées. La période d'après-guerre, c'est quelque part, quand on parle des Trente Glorieuses, mais du point de vue de la recherche scientifique, c'est la création. Tous les grands organismes de recherche aujourd'hui qui existent en France ont été créés à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Le CNRS a été créé juste un petit peu avant pour des raisons militaires, mais surtout structuré après la Deuxième Guerre mondiale. L'INRA, l'Institut de recherche en agronomie, a été créé en 1946. Ce qui allait devenir l'INSERM, ça devait être l'Institut national de l'hygiène, c'est comme ça que ça devait s'appeler, a été créé aussi après la guerre. Ce qui va devenir l'Institut de recherche et du développement, ça a été créé aussi après la guerre, c'est-à-dire tous les grands organismes de recherche qui existent encore à l'heure actuelle en France, même si leur mission a profondément évolué, ont été créés à ce moment-là, avec des missions qui étaient, entre guillemets, des missions, comme l'a rappelé Rémi, qui étaient prises en charge par des structures de l'État, c'est-à-dire c'est la mise en place des laboratoires, c'est les chercheurs du service public qui assuraient l'essentiel de la recherche, dans un but, je dirais, globalement, de bien-être ou de progrès pour la société civile ou même de reconstruction aussi directement après la guerre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre parce que ça a façonné à la fois les laboratoires dans lesquels on a travaillé, ça a façonné la façon dont la recherche était faite, ça a façonné aussi les chercheurs qui existaient dans ces différents laboratoires. Et les choses, évidemment, ont basculé quelque part. Parallèlement à ça, pour moi, alors je suis mathématicien, je suis rentré à l'université comme enseignant-chercheur en 1970. Tiens, paf, j'ai pris dans la gueule le choc pétrolier aussitôt que je suis arrivé à l'université. J'étais un mathématicien pur, hein, alors un bon qui n'a rien à voir avec la société, hein, ceux qui nagent là-haut. Très rapidement, avec toute une série de raisons, à savoir la critique des sciences qui existait, mai 68, dans la foulée, le choc pétrolier, je me suis posé la question de savoir, j'aimerais bien faire des mathématiques qui servent à quelque chose, et donc je me suis orienté vers les mathématiques appliquées, et j'ai travaillé sur les réseaux, les terrains d'aviation, pour faire atterrir les avions, les réseaux de télécom, etc. Donc j'avais envie de voir quelque part la vie qu'il y avait derrière les mathématiques, et puis, c'est passé quelque chose que j'ai appris a posteriori. 1953, ce n'est pas que la mort de Staline, mais c'est aussi un prix Nobel dont tout le monde a entendu parler, je pense. C'est le prix Nobel de biologie de Watson et Crick, qui montrait le rôle et la fonction de cette molécule à l'intérieur de nos cellules, qui est la molécule d'ADN. Et je dois dire que, bon, je ne l'ai pas appris en 53, j'étais trop petit de toute façon pour m'en occuper, mais après, quand j'ai pris conscience de l'envie que j'avais de faire des choses un peu appliquées à la vie, ben c'est vers la biologie que je me suis orienté, parce que justement, j'ai appris qu'il y avait ça qui était en train de se faire, et j'ai participé à la création et au développement d'une nouvelle discipline qui existait maintenant, hein, qui s'appelle la bioinformatique. Et je vous explique un petit peu comment ça sert de bascule dans le passage de la science à la technoscience aujourd'hui dans ce secteur-là. Alors, J'ai fait une reconversion thématique. C'était dans les années 90. Je suis allé à l'INRA pendant un certain nombre de mois. J'ai travaillé avec le secteur de statistique et de biologie et d'intelligence artificielle de l'INRA, etc. Et là, j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui la génomique, c'est-à-dire, grosso modo, l'étude des propriétés, soit des plantes, soit des animaux, obtenues à partir de l'étude de cette molécule qui était l'ADN. Ma première réaction et la réaction de tous les collègues avec qui je travaillais, ce n'était pas une réaction de technoscience, c'était une réaction de fascination. Pour la première fois, on avait accès à de l'information génétique sur les organismes vivants et on avait à portée de la main les possibilités d'expliquer toute une série de choses, de comprendre le fonctionnement du vivant. Et ça se faisait non seulement avec des biologistes, mais avec des physiciens, avec des informaticiens, avec des mathématiciens tels que moi, même y compris avec des linguistes, etc. Et là, il y a eu un travail de collaboration très important entre plusieurs disciplines pour faire naître ce qu'on a appelé la bioinformatique. Pourquoi? Et bien, tout simplement, c'est qu'après le prix Nobel de 1953, et je reprends le plan qu'a utilisé tout à l'heure Rémi, après une période de un peu de troubles, de révolution dans la tête des gens, ont commencé à se développer dans les années 60 les outils qu'on appelle les outils du génie génétique, c'est-à-dire qui permettent de travailler sur cette molécule. Grosso modo, c'est du copier-coller, dupliquer. Hein. On coupe, on colle et on reproduit de manière un petit peu particulière, parce que c'est de la biologie, donc on coupe, on colle, on produit avec des produits chimiques, avec des bactéries, etc. Les années 60, c'est donc l'invention de ces outils qui permettent de travailler sur l'ADN. C'est aussi la mise au point des premières bactéries génétiquement modifiées, pas dans le but d'agricole, mais tout simplement dans un but de pouvoir étudier les fonctions, de pouvoir étudier le vivant, etc. Donc non seulement on avait un résultat théorique, il y avait des outils qui se sont développés, et à partir des années 70, eh bien, se sont développées évidemment cette fascination. Et dans beaucoup de laboratoires, on a commencé à dire qu'il faut connaître la séquence d'ADN de l'organisme sur lequel on travaille si on veut avancer dans la connaissance. Alors, je vous dirais qu'il y a tout de suite une première tendance contre laquelle j'ai lutté à ce moment-là, et l'histoire nous a donné, avec quelques-uns qui ont un peu raison, c'était cette vision totalement réductionniste d'un organisme vivant qui est réduit à cette molécule d'ADN qui est symbolisée par cette succession de quatre lettres ACGT, qui, grosso modo, c'est un langage dans lequel il y aurait une grammaire, c'est un magnifique livre, et il suffirait de le décoder pour savoir exactement quelle sera votre couleur de yeux, la couleur des cheveux, si on veut modifier quelque chose, si on veut faire trois pieds, il suffira de modifier l'ADN, et des choses comme ça. Quelque part, c'était un peu fascinant. Fascinant parce que imaginez un peu le programme qui a décrypté le génome humain en 2000. Il avait commencé une dizaine d'années avant. On allait avoir accès à cette molécule sur, grosso modo, caractérisant l'espèce humaine. Vous imaginez que dans les laboratoires, la fascination que ça avait, ça représente, si vous écriviez avec un livre format livre de poche, hein, 80 caractères par ligne, vous mettez 50 lignes ou 60 lignes par page. Vous écrivez en caractères normaux, hein, en 11 ou en 12 si vous voulez, ça représente un livre de 800 000 pages. Alors un livre de 800 000 pages, c'est un peu lassant à lire. Si vous avez du mal de sommeil le soir, il suffit de lire les A, C, G, T, 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 G, C, C. Voilà, vous lisez ça, vous allez vous endormir très vite. Dans ce livre de 800 000 pages, il n'y en a que 2 à 3% qui représentent le codage pour les fonctions qui font fonctionner notre organisme. Le reste, on ne savait pas encore à quoi ça va. Puis d'ailleurs, une grosse partie est toujours inconnue, à tel point qu'on l'a appelé le junk DNA, c'est-à-dire l'ADN poubelle, puisqu'on pense que ça ne servait à rien. Bon, ça, c'est pas vrai. Je pense qu'on n'a pas grand-chose qui sert totalement à rien dans notre organisme. Bon. Mais vous imaginez, vous avez ce livre. Alors, tous les biologistes travaillaient à produire cette fameuse séquence, c'est-à-dire produire les pages du livre. Sauf que pour produire les pages du livre, eh bien, on pouvait les produire que pas plus de 300 caractères à la fois au début. Puis il fallait mettre plusieurs mois. Imaginez que vous avez 300 caractères, mais il va falloir rassembler tous ces morceaux-là les uns avec les autres. Vous prenez une ficelle, vous la coupez, vous avez deux morceaux. quand vous regardez les deux morceaux après, vous ne savez pas lequel il va se rabouter avec l'autre. Donc là, vous avez un problème qui n'est plus un problème de biologie, qui est un problème de dire j'ai plein de morceaux, il faut que je les recolle les uns avec les autres. Ça devient un problème d'informatique. Et puis, il faut stocker toute l'information que l'on pouvait avoir. Et puis, il faut qu'il y ait des gens du genre mathématicien, statisticien, qui vérifient la fiabilité de la construction qui est en train de se faire. Et des biologistes qui recommencent le travail derrière pour savoir si l'assemblage qu'on a fait est cohérent ou pas cohérent. Et tous les laboratoires qui ont travaillé sur la biologie moléculaire à ce moment-là, ben, ont été pris dans ce tourbillon de séquencer, assembler, étudier, et ensuite décoder et décrypter, qui n'est pas un mince affaire, parce qu'il fallait chercher dans ce grand livre de 800 000 pages où se trouvaient les petits messages codants intéressants, et ça, c'est un gros boulot, à la fois qui nécessite de l'informatique, des statistiques, des physiciens et des biologistes. Un immense travail de collaboration pour le bien commun à ce moment-là dans la tête des gens. Se sont créés à partir des années 70 ce qu'on a appelé les bases de données, les banques de données, où tous les biologistes qui créaient par leur manipulation qu'avaient obtenu les fameux morceaux de séquence, ils étaient mis dans une banque de données publique, à accès public, avec toute la transparence de leur publication. Ça devenait évidemment un bien commun. Un bien commun qui a été petit à petit remis en cause. Pourquoi ça a été petit à petit remis en cause ? D'abord parce qu'il y a eu une accélération de la production des séquences d'ADN. En l'an 2000, quand le séquençage du génome humain a été terminé, il y avait deux projets concurrents qui travaillaient. Un consortium international où un certain nombre de pays s'étaient répartis des chromosomes à étudier, et un consortium privé aux États-Unis qui s'appelait le Trust Celera, qui porte bien son nom d'ailleurs, bon, et qui lui utilisait d'autres méthodes pour obtenir la même séquence. Les années d'avant, séquencer l'ADN, c'était produire 300 lettres, 500 lettres en 6 mois. En 2000, on produisait 1 million de lettres par jour. Mais sur 1 million de lettres par jour, il fallait le stocker dans les banques de données. Vous avez une explosion des banques de données à ce moment-là du point de vue de la quantité de choses. Chaque nuit, il arrivait dans la grande banque de données publique qui s'appelle GenBank plusieurs dizaines de milliers de séquences que personne ne pouvait relire. Grosso modo, c'était le Wikileaks, le Wikipédia de la biologie moléculaire. Chacun y met ses articles, mais personne ne peut vérifier pour cause. Parce qu'il n'y a personne qui a le temps de contrôler tout ce qui a été mis. Mais tout ça, c'était le truc brut qui était mis en accès public pour toute la communauté internationale. Et moi qui ai donc participé à la création de la bioinformatique, ben c'était justement mettre à la disposition de toute la communauté les outils qui permettaient de stocker, d'analyser, de décrypter, de prédire sur tous ces ensembles-là, avec tous les trucs fascinants derrière l'histoire du vivant, les relations entre les différentes espèces. Enfin, on avait une méthode qui permettait de savoir si on descendait de la carotte ou des œillets ou n'importe quoi. Bon, ça remettait des choses absolument au point. Et du coup, chez les chercheurs dans les laboratoires, c'est pour ça que je vous parle de schizophrénie, parce qu'il y a quelque chose qui est absolument merveilleux qui est en train de se passer. Sauf que, on accumule l'information, on accumule tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? On va connaître le génome humain, pour quoi faire ? Ah, pour connaître les gènes, d'accord. On a lancé un concours pour savoir combien il y avait de gènes chez les humains. Au départ, on était sur 100 000, 150 000, après on était arrivé à 25 000, etc. etc. Bon, puis après, qu'est-ce qu'on fait avec les gènes ? Ben, évidemment, le bien commun, c'est toutes ces banques de données publiques. Et puis, ben, petit à petit, dans la tête des gens, se sont dit, ben, les gènes, les connaître, ça peut servir à quoi ? Ben, peut-être qu'on peut s'en servir pour faire du diagnostic médical. Peut-être qu'on peut s'en servir pour faire des cibles thérapeutiques et créer de nouveaux médicaments pour traiter telle ou telle maladie. Peut-être qu'on peut s'en servir aussi pour traiter et regarder tous les problèmes liés à des maladies génétiques. Depuis quand existe le Téléthon ? Ben, le Téléthon, c'est le produit de cette époque-là, c'est-à-dire le Généthon qui s'est créé à Paris, qui étudiait le chromosome 13, je crois, oui, c'est ça, le 13, pour étudier la myopathie qui était derrière. Il avait en charge du séquençage de ce chromosome-là, donc il y avait quelque chose de fascinant. En plus, avec un fonctionnement du Généthon Oui, qui était démocratique, c'était les malades, les patients, les parents des malades qui géraient, qui orientaient, qui géraient le fric. Moi, je vais visiter le Généthon et puis je regarde à l'entrée le panneau expliquant comment ça fonctionne. Et là, j'étais fasciné. Le Téléthon, je regarde, tant de milliards, je ne me souviens plus combien que c'était de milliards, ça représentait plus de 90% du financement du Généthon. Je regarde mes magnifiques organismes de recherche qui, pour moi, étaient ceux qui organisaient et finançaient la recherche en France, CNRS, 2%. L'INSERM, à peu près du même ordre, etc. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans la société. Alors on va dire, oui, mais là, c'est du financement participatif, puisque c'est le Téléthon, les Téléthons, c'est la société, etc. Peut-être. Et alors on continue de voir comment évoluent les choses. À côté du Généthon à Paris, c'est implanté un autre consortium qui s'appelle Génoplante, qui est le premier exemple un peu structuré dans la recherche de partenariat public-privé. Et grâce à qui, je crois qu'il s'appelle Monsieur Allègre, il me semble, hein, qui était plus ou moins à l'initiative de l'existence de ce Génoplante. Qu'est-ce qui se passe dans le Génoplante? Même chose, fascination, etc. Et puis, petit à petit, que ce soit dans la recherche médicale, dans la recherche sur les plantes, on s'aperçoit que c'est la crise, hein, c'est les années 80-90, c'est la mondialisation dont a parlé Rémi, qu'on s'aperçoit que ça peut être une source gigantesque de profit, cette affaire-là. Pourquoi une source gigantesque de profit? Une entreprise américaine, Myriad Genetics, fait de la recherche et découvre qu'il y a deux gènes, BRCA1 et BRCA2, qui sont impliqués dans le développement du cancer du sein chez les femmes. L'idée, c'est de quoi faire dans ces cas-là? Ben, c'est de breveter la méthode qui permet de détecter la modification de ce gène et éventuellement d'essayer de breveter le gène lui-même. Et c'est ce qu'a réussi à faire l'entreprise Myriad Genetics. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passait? Toute femme en France, y compris l'Institut Curie qui avait mis au point un test de diagnostic, était obligée de passer par les fourches caudines du test qui était privatisé et avec un brevet à la clé. Donc, à chaque fois qu'une personne se faisait faire un test de dépistage, bing, jackpot pour l'entreprise en question, et vous imaginez les profits que ça représente. Profit, parce qu'en même temps, il récupérait tous les prélèvements des organes, etc., sur le sein, il les stockait pour les étudier et éventuellement les analyser et découvrir de futures cibles thérapeutiques. Et on voit qu'autour de cette entreprise-là, va commencer à avoir une structuration évidemment gigantesque de profits possibles à partir de la maladie des gens. Bien sûr que c'était utile de voir quels étaient les gènes qui étaient impliqués éventuellement dans le développement du cancer. C'est ce que j'appellerais, moi, ce qui fait partie du bien commun de l'humanité. Mais l'appropriation privée de cette information et la privatisation dont a parlé tout à l'heure Rémi sur la propriété intellectuelle et la propriété privée a fait basculer les choses. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, tout ce travail collectif de collaboration qui existait à l'échelle internationale entre les chercheurs, c'est devenu une compétition à celui qui allait trouver plus rapidement que les autres le gène impliqué dans tel machin, dans telle maladie ou dans telle cible thérapeutique, pour pouvoir le plus rapidement possible le breveter et pour pouvoir le plus rapidement possible, évidemment, en faire de profits gigantesques. Et c'est la période où on a vu émerger une quantité de petites start-up qui se sont polarisées sur une question pour arriver à bénéficier d'un profit maximum. En agriculture, c'est exactement la même chose. Il y a eu un débat sur les OGM. Et moi, je suis assez d'accord avec Jean-Pierre Berland quand il dit l'important du débat sur les OGM n'est finalement pas la toxicité des plantes, n'est finalement pas de savoir si c'est important ou pas important. C'est le fait qu'une entreprise pouvait ainsi, en modifiant génétiquement une plante, mettre sa signature sur chacun des grains de maïs ou sur chacun des grains de blé, et donc propriétaire non seulement de la plante, mais de tout ce qui pourrait être obtenu à partir de la plante par la suite. Et c'est donc ça, évidemment, qui motive au départ les OGM, même si après, il y a d'autres choses qui se greffent. Et ce qui veut dire en même temps, évidemment, un contrôle gigantesque sur l'agriculture à l'échelle de la planète. c'est-à-dire à la fois pour les intrants, à la fois le fait que les paysans n'ont plus le droit de reproduire dans leurs champs leurs propres semences ou leurs propres animaux, ils sont obligés de passer par la multinationale, la grande Monsanto, évidemment, pour ne pas la nommer, etc., etc. Et on a vu, à partir des années 90-2000, tout basculer, où ce qui allait être le moteur dans la recherche scientifique au niveau de la biologie moléculaire, etc., était pour l'essentiel guidé vers cette course au brevet, cette course au profit. On l'a connu, c'est la même époque. Moi, j'étais membre du comité national du CNRS qui est chargé normalement d'évaluer les projets des laboratoires, d'évaluer les chercheurs, d'évaluer les labos, d'évaluer aussi les grandes orientations de la recherche et de recruter les gens dans le CNRS. Bon, c'est une période, malheureusement, où les postes disponibles au CNRS étaient plutôt en chute libre. Hein. Donc, on n'avait pas grand monde à recruter. Mais quand on regarde les critères à ce moment-là, un bon dossier, c'est un bon dossier où on aligne tant de brevets. On s'en fout complètement à la limite de sur quoi vous travaillez. Moi, je venais de la mathématique. Alors, en mathématiques, on pouvait faire de la recherche sur ce qu'on voulait. Il n'y avait personne qui nous demandait des comptes. Mais petit à petit, aujourd'hui, mon ancien laboratoire de mathématiques, il est obligé de dire quelles vont être les futures applications des résultats qui vont être faits en mathématiques appliquées, quels vont être éventuellement les dépôts de brevets qui pourront être faits, les algorithmes qu'on va pouvoir obtenir, etc., etc. Et donc, vous avez cette bascule qui est faite dans les années 80-90. Et quand on parle de technosciences, qu'on fait remonter à 30 ans à peu près, grosso modo, c'est cette période-là qu'on a connue dans la biologie moléculaire. Alors du coup, ça a eu des impacts sur tout, dans les laboratoires, le fonctionnement de la recherche. On marche maintenant sur projets à court terme, projets qui doivent être adossés à des entreprises, qui doivent être adossés à des projets industriels, avec un recrutement de chercheurs qui ne sont plus des chercheurs publics, qui sont des chercheurs sur des CDD de 3 ans, où c'est des contrats avec les entreprises, etc., et au bout de 3 ans, on les jette. Donc tout a changé dans l'organisation de la recherche, dans l'organisation. Ça va même jusque dans les laboratoires où on met en compétition les chercheurs les uns contre les autres, où la tasse de café, c'est la méfiance. Hein, c'est-à-dire, je sais que toi, tu travailles sur un truc qui est aussi concurrent, et donc je ne partage plus avec toi ma journée de travail. Or, on sait qu'en recherche, la seule garantie de l'évolution des choses, c'est le partage, c'est le travail au quotidien, les échanges qu'il peut y avoir avec les gens. Dernier point aussi, c'est le secret, la confidentialité. Moi, on a créé un diplôme, un master professionnel de bioinformatique. Au début, tous nos étudiants allaient dans les organismes qui ont créé la bioinformatique, Institut Pasteur, Institut Curie, etc., etc. Petit à petit, les stages de nos étudiants sont partis vers les start-up, vers les organismes privés, etc., etc. Et puis, les mémoires de master, on a vu petit à petit apparaître la confidentialité des mémoires, c'est-à-dire qu'on ne devait pas divulguer le contenu. Je peux vous rassurer que pour 80% des mémoires qui étaient sous le secret de la confidentialité ne voulait strictement rien dire. C'était plus un acte politique de l'entreprise de dire c'est confidentiel, alors qu'en fait, dedans, il n'y avait pas grand-chose, finalement. Mais vous voyez comment ça a changé. Les organismes de recherche tels que CNRS n'est plus devenu ce qu'il devait être, un organisme qui faisait de la projection sur le devenir, mais une agence de gestion de moyens. Et on a transféré les décisions de recherche au niveau des agences telles que l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui, elle, sert tous les ans à distribuer des enveloppes de recherche à des laboratoires pour une durée de 3 ans sur des projets qui, bien sûr, sont bien évalués si ce sont des projets faits en partenariat industriel, etc. Et donc, quand on parle de technosciences, il ne faut pas voir la technologie simplement, mais c'est de savoir que ça a transformé les rapports sur la façon dont la recherche se fait, dont le statut des gens dans les laboratoires, comment ils fonctionnent aujourd'hui, leur travail, l'organisation de la recherche. Et quand on parle de responsabilité et d'éthique, la première question qu'on doit se poser, c'est la recherche qu'on fait. Qui la décide? Comment on la fait? Quelles vont être ses conséquences sur l'avenir? Toutes les agences de notation et tous les experts qui existent aujourd'hui ne répondent pas à cette question-là. Quand vous regardez dans les laboratoires, et Rémi en a parlé tout à l'heure du jugement pour savoir si un truc est toxique ou pas toxique, il y a une législation, il y a des critères de bonne pratique de laboratoire ou des choses comme ça. Et la responsabilité du chercheur, c'est vis-à-vis de la loi ou vis-à-vis des bonnes pratiques de laboratoire, éviter l'accident, éviter telle chose, éviter telle autre chose. Aucun organisme de recherche aujourd'hui se pose la question quel est l'impact sur l'humanité, sur l'avenir des gens, des organisations et des directions de recherche qui sont faites. On aura l'occasion d'en discuter demain, parce que je vous parlerai de géo-ingénierie, où là, typiquement, c'est exactement le problème qui se pose. Je crois que j'ai dit, j'arrête.